Voilà. Donc, daf mem tet. Et donc, on est dans la suite et fin des prières post-Amida de 10 rabbanim. D'accord ? Il y en a une qui sera choisie. D'ailleurs, ça pose des questions aux commentateurs. Pourquoi c'est celle-là qui a été choisie ? D'accord ? Ce que j'appelle post-Amida, quand on termine l'Amida, je répète, on termine Amivarech et Amisrael Bachalom, et puis il y a un petit passage, anodin, quoi, qui est post-Amida, et le Kain Netzor, les chenilles, etc., etc., où on demande des choses en post-Amida. Et après, on recule, d'accord ? Mais pourquoi je dis post-Amida ? Parce que l'Amida est terminée, et si on a besoin de répondre, par exemple, à la Kdusha, au Kadish, on répond, donc ça veut dire on n'est plus dans l'Amida. Et c'est l'endroit où tous les Chachamim, chacun à sa manière, ils ont choisi d'exprimer leurs demandes les plus importantes. Comme si en réalité, à force de répéter, comme si en réalité, ils avaient peur de d'effleurer la Amida en rajoutant des choses. C'est-à-dire, c'est vrai que le principe de la Amida, c'est de demander ce qu'on a besoin. D'accord ? Quelqu'un m'a dit à quel endroit on met, etc. Et c'est ça l'idée de la Amida, de chaque bracha. Elle est spéciale, il y a une bracha pour la foi, une bracha pour ça, une bracha pour ça. Donc, l'idée, c'est de prier dans l'Amida. Mais il y a des fois où on n'ose pas, où on a oublié des choses. Et donc, ces Chachamim, ils avaient fait un petit texte en post-Amida où ils mettaient les choses qui leur semblaient importantes. Il y a aussi quelque chose qu'il y a à rajouter, c'est que l'Amida a été instituée par les membres de la Grande Assemblée. D'accord ? C'est un texte ciselé. D'accord ? C'est extrêmement ciselé, extrêmement bien construit. L'Avdil, bah, toujours, je me rappelle quand, comme chacun d'entre nous, on était au lycée, on étudiait les poésies, les poésies de tous les grands poètes, et quand on étudie une poésie, c'est au mot près, la rime, le ci, le ça, c'est vraiment construit. Donc, Kalva Chomer, comme dit la Gemara, Ben Benoshev Kalva Chomer, fils de Kalva Chomer, qu'un pasouk de la Torah, une Mishnah, une Tfila, elle est mille fois plus ciselée, mille fois plus construite. Et l'idée, c'est que quand on a des choses à demander, oui, on peut intégrer tout ce qu'on veut. Mais si on veut faire des prières fixes, c'est un petit problème. Donc c'est un problème technique. Ça veut dire que on peut pas changer le texte de la Amida. Vous avez la Amida, d'accord ? Vous avez les 18 bénédictions. Et maintenant, vous allez vous mettre un petit texte, tous les jours le même, d'accord ? Parce que vous voulez bénir le fils, la fille, la jambe, la fille, le ça. Et ta, iratson, et qu'il y ait la part dans ça, etc. Quelque part, et c'est ça que dit le Chida, quelque part, c'est comme si vous aviez rajouté un texte. D'accord ? Je ne sais pas si chacun d'entre nous, il prie pour ce qu'il a besoin. Oui ? Alors, il y en a qui ont besoin de la bonne santé, il y en a qui ont besoin de la parnassa, il y en a qui ont besoin de la bracha pour les enfants. D'accord ? Mais après, il y a des choses qui sont invariantes. On a toujours besoin de ça. C'est-à-dire, moi, je prie pour mes enfants tous les jours, comme j'imagine chacun d'entre nous. Un autre, il prie pour la santé de son père tous les jours. Il rationne, etc. Alors, il peut prier en français, en hébreu, c'est ce qu'on a déjà dit. Et donc, le Chida, il dit, quelque part, c'est un problème, parce que finalement, en priant la même prière tous les jours au même endroit, c'est comme si tu avais changé la bracha. D'accord ? C'est un petit problème. Parce qu'en réalité, entre vous et moi, c'est pas très grave. Qu'on ait déjà ce problème, c'est déjà compris la Amida. Un. Qu'en plus, qu'on se mette dans l'Amida à rejeter des prières personnelles. Deux. C'est déjà des trucs extraordinaires. Après, si effectivement on se pose la question, mais déjà on est dans des degrés de questionnement très élevés, que effectivement, le fait de répéter tous les jours, je veux, et ça, et tous les jours, c'est comme si on, d'abord, tout le monde n'est pas d'accord, parce que de toute manière, c'est une prière personnelle, et puis, on a toujours besoin de ça. Donc, c'est pour cette raison, peut-être, que ces Chachamim, ils ont dit, bon, on va pas toucher la Amida, on ne touche pas le texte, d'accord? J'imagine que, comme en plus, c'est des textes qui sont fixes, donc j'imagine que tous ces Chachamim, quand ils avaient des choses supplémentaires, que leur femme se faisait opérer ou n'importe quoi, alors ils mettaient pendant la semaine où elle s'est opérée, ils rajoutaient le texte dans l'Amida, comme tout le monde, dans Refa et nous. Ou bien quand il y avait n'importe quoi, on rajoute un texte. Mais des choses qui sont constantes et perpétuelles, ils disaient, c'est quoi, on va les mettre après l'Amida pour pas toucher le texte dans sa structure perpétuelle. Vous voyez, c'est à peu près clair ce que je vous ai dit ? Mais j'avoue que moi aussi, ça m'a un peu perturbé ce qu'il dit le Chida, parce que ça va, et ben si je répète tous les jours la même chose, et ben ça va, c'est pas, j'ai pas changé la Amida, quoi. Tous les jours, je répète que je veux la bonne santé pour ma mère et mon père, mon ancien, et demain, jusqu'à 120 ans, voilà. Ce n'est pas toucher la Amida. D'accord? Comme ça, il dit le Chida. Donc, il faut... Le Chida, c'est le Chida, quoi. Alors, donc on est là. Rabbi. Vous êtes bon, Rabbi? Donc, on est au premier paragraphe de la page même tête. Tout le monde est bon? Rabbi. Donc, qui est Rabbi? Rabbi, c'est le grand parmi les grands. Rabbi, ça veut dire mon maître. Donc, comme quelqu'un m'a dit, Zamani, pourquoi c'est le Rabbi qu'on appelle le Rabbi? D'accord? En réalité, c'est parce que maintenant, on est proche du décès et de sa période de gloire. Mais en réalité, tous les chassidim, ils appelaient toujours leur maître le Rabbi. Ou bien à l'Eshiva, on appelait le Rav. Le Rav Rakin, c'était le Rav, etc. Bon, après, les choses changent. Donc, maintenant, il s'appelle le Rabbi. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura un autre Rabbi qu'on appellera le Rabbi. D'accord? Okay? Mais il y a un maître qui est resté toujours avec ce nom-là, c'est qu'on appelle toujours Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. C'est celui qui a compilé la Mishnah. Pourquoi on l'appelle mon maître? Parce que, ayant compilé la Mishnah, il nous a donné le texte de base pour toute étude. Donc voilà pourquoi chacun d'entre nous, quand on l'appelle mon maître. À toutes les époques confondues. Quand on dit Rabbi, d'accord? Mon Rav, c'est lui. C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Batar Tzluté, après sa prière, Amarachi, il disait ceci, donc, en post-amida. Yiratzon mifanecha shemelokenu velavotenu. Quelle soit ta volonté, enfin, bon, c'est une mauvaise traduction, c'est quelle soit la volonté devant toi, d'accord? Puisque Hachem, il est au-dessus de la volonté. Avoir une volonté, dire avant j'avais pas, j'ai autre chose, etc. Tandis que Hachem, il est au-dessus même du principe de volonté. Voilà pourquoi on dit quelle soit la volonté devant toi. C'est-à-dire qu'arrive l'idée de volonté devant toi, toi qui es au-dessus de la volonté. Chez un homme, la volonté, c'est lui, c'est son essence, c'est sa personne. Alors que Hachem, il est au-dessus de la volonté. Voilà pourquoi on dit Yaratzon mille panecha, quelle soit la volonté devant toi. Hachem Elokein de la beauté, nous. L'Éternel, notre Dieu, est le Dieu de nos pères. Et je vous ferai remarquer, ceux qui ont de la mémoire, c'est que, enfin, la mémoire, ça fait trois, c'est la quatrième prière, hein. C'est le seul qui dit Elohim, nous voulons voter nous. Notre Dieu, le Dieu de nos pères. Ils ont tous dit, Mivan Hachem Elokeinu. C'est le, d'accord, Elokeinu, Elokeinu. C'est le seul qui dit notre Dieu est le Dieu de nos pères. Et d'ailleurs, bon, c'est la même chose que dans la Amida. Dans la Amida, on dit Elohim, nous voulons voter nous. Ok? Et que, normalement, Max, c'est bon, t'es bien rentré dans. C'est bon. Ah oui, tout le monde connaît Max, hein. Oui. C'est un demi-frère. Alors, et que, on dit, Eloheinu velavotenu, notre Dieu est le Dieu de nos pères. Alors qu'historiquement, c'est d'abord le Dieu de nos pères avant d'être notre Dieu. Et d'ailleurs, dans la vie, il est le Dieu de mon père avant d'être mon Dieu. Il n'est mon Dieu que parce que c'est le Dieu de mon père. Je suis né, j'ai grandi, mon père me dit, voilà, c'est comme ça, la Torah, les mitzvot, etc. Non, mais même dans... Je m'approprie Dieu que parce que mon père m'a aidé à me l'approprier. Mon père, mon grand-père, c'est eux qui m'ont mis dans une structure, dans un ambiance familiale, dans une éducation, qui ont fait que. Donc c'est un peu.
Ah. Il existait avant nos pères.
Non, c'est pas. Oui, il existait avant nos pères. Non, c'est l'idée de dire notre Elohéinu veut la voter nous. On devrait dire Elohéinu veut la voter nous, Elohéinu. Il est d'abord le Dieu de nos pères, et après, notre Dieu. Pourquoi non?
Non, c'est notre Dieu.
Quand tu dis notre Dieu, c'est toi. Notre Dieu, nous ici présents. Et Dieu de nos pères et nos grands-pères qui sont dans le passé.
Pas même, non. C'est notre Dieu, il est à l'origine de tout. Quoi.
Alors tu dis c'est le Dieu. C'est Dieu. Quand tu dis notre Dieu, c'est plus... Je comprends ce que dit. Lui, il dit... oui, je comprends.
Il est
Dieu.
Il est notre Dieu avant d'être... Même avant nos pères.
Ouais.
Pas quelque part, il était déjà là, quoi.
Oui, mais c'est pas notre.
Oui. La transmission.
Bon, je comprends ce que tu veux dire. Mais.
Il est Dieu avant notre Dieu.
Comment?
Il est Dieu avant notre Dieu.
Oui, mais il est le Dieu de nos pères avant notre Dieu. Oui. Voilà. Et pourtant, c'est pas ce qu'on dit dans la Mida. Elohéno de la beauté nous.
D'abord.
Oui. Donc en réalité. Cette appropriation de Dieu avant de parler de celui de nos pères, c'est parce que pour pouvoir dire c'est le Dieu de nos pères et de nos ancêtres, etc., il faut déjà qu'on ait intégré que c'est notre Dieu. Ça veut dire que sinon après c'est que de la culture. Si c'est pour dire oui, bon, c'est le passant de mes parents, c'est la culture de mes parents, c'est pas ça qu'on veut dire. Et pour pouvoir parler du Dieu de nos pères, il faut d'abord dire c'est mon Dieu, c'est, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il est pour moi, et secondairement il est le Dieu de mes pères. Ça veut dire que je me rattache à mes pères. mais on ne se rattache pas. C'est-à-dire, il n'est pas notre Dieu parce qu'il est le Dieu de mes pères seulement. C'est ça l'idée. On doit s'approprier Hachem Kaviachol. C'est mon Dieu, voilà ce qu'il m'a fait à moi, à ma femme, à mes enfants, à ma famille. Et je me rends compte qu'en réalité, mais il a fait pareil à mes parents et à mes grands-parents. Donc la prise de conscience du divin, elle est chez nous. Et après, on prend conscience que c'est aussi à nos parents. Même si, historiquement, on n'est pas dans l'historique, on est dans le ressenti. Ok ? Donc voilà pourquoi il dit, Elohim nous l'a voté, nous. Et qu'est-ce qu'il dit ? Shetatsileni, que tu me sauves, mais Azepanim. Azepanim, c'est les insolents, c'est-à-dire des gens agressifs. Alors Rabbi, lui, il était un maître, un dirigeant du peuple juif, et comme tous les dirigeants, il était tout le temps attaqué. Comme on va voir après, quand on lui mettait une protection, à la fin du verset, le président, le dirigeant du peuple juif, lui c'était juste le rave, le grand rave, il lui avait mis une protection. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? Sauve-moi des insolents. Alors, dans les commentateurs, ils disent, pourquoi sauve-moi des insolents ? Qu'il est toujours attaqué par des gens qui le méprisaient, enfin, comme tous les grands chefs. Et il y a une fois un type qui est venu le voir, et qui lui a dit, faut quand même que je te dise, hein, ta femme, c'est la mienne, et tes enfants sont les miens. Comme ça, tout de go. C'est-à-dire des trucs invraisemblables, quoi. Et donc, normalement, on aurait dû le massacrer à celui-là. Il a dit, non, mais c'est lui complètement fou, celui-là. Mais malgré tout, il disait, Hachem, sauve-moi de l'agressivité des gens, par ma position. D'accord ? C'est Azepanim. Sauve-moi des gens Azepanim, des insolents. On met Azutpanim et de l'insolence en elle-même. Azutpanim. Alors, Azutpanim, c'est l'effronterie. Alors, Azpanim, d'accord, c'est quelqu'un qui a peur de rien, qui a honte de rien, et qui est, en ce qu'en français on appelle l'insolence. Donc il disait, non seulement sauve-moi des attaques, mais que moi-même je ne réponde pas à l'attaque par l'attaque. Que je ne sois pas moi-même insolent. Mais Adam Ra, sauve-moi des gens mauvais, d'accord, qui me veulent du mal, ou mi Pegara, et d'une mauvaise rencontre. C'est quoi une mauvaise rencontre ? Bien sûr, une mauvaise rencontre au coin de rue. Mais en réalité, c'est plus que ça. Il y a une fois, la Gemara, elle dit, à propos de Rabbi, il y a beaucoup d'histoires autour de Rabbi, qu'une fois, il était chez lui, et il y a un petit agneau qui est venu se réfugier dans ses jambes. D'accord ? Le petit agneau, il s'est sauvé de l'abattoir, du chochet, et il est venu se réfugier chez Rabbi. Bon. Rabbi, il l'a pris, il a dit, mon petit agneau, il était gentil, Rabbi, il a dit, mon petit agneau, les karnotarta, tu es né pour ça, tu es né pour la shrita, viens avec moi, je t'emmène chez le chochet, et tu vas donner à manger au peuple juif, tatati, tatata. Bon. C'est marqué que Hachem, il a dit, quoi, tu n'as pas eu pitié du petit agneau ? D'accord. Les petits agneaux, on peut pas tous les récupérer à la maison, mais un qui se sort de l'abattoir, qui a une histoire tellement tristounette et qui vient se réfugier chez toi, tu la ramènes à l'abattoir, il dit c'est pas quelque chose de audible pour un grand dirigeant. Et la Gemara dit qu'il a souffert à cause de ça, de douleurs dentaires pendant plusieurs années. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas eu pitié. C'est-à-dire il y a des fois, bien sûr que je dois pas aller voir à l'abattoir, on ferme les abattoirs parce qu'on va devenir végétarien. Non, bien sûr que non. Tu laisses les choses faire, mais tu dois. Si une situation se présente avec et qui nécessite ta pitié, ça doit éveiller ta pitié. Donc Hachem, il a dit, tu mérites de comprendre qu'est-ce que c'est la douleur d'un animal, et tu peux la comprendre quand tu vas l'expérimenter dans ta propre douleur. Et là, il m'a dit plusieurs années, je ne sais pas si 7 ans ou 12 ans de souffrance, jusqu'à ce qu'un jour, il était à la maison, il y a sa servante qui était en train de balayer, elle a trouvé des petits chatons sous la table, elle a pris un grand balai, elle les a balancer, il dit, c'est des créatures de Dieu. Mistama, il s'est rappelé de ça, il dit, c'est des créatures de Dieu. Prends-les doucement, tu les mets dans un petit sac, un petit panier, tu n'as pas besoin de les balancer comme ça. À ce moment-là, ces douleurs dedans se sont arrêtées. Donc les commentateurs, ils disent, c'est quoi les mauvaises rencontres ? C'est parfois même un petit agneau, ça peut être une mauvaise rencontre. C'est-à-dire, on doit avoir la bonne réaction face à une rencontre agressive, par exemple. Mais Chaverra, donc tout ça, c'est des choses qui demandent, que Rabbi demande à Hachem de le protéger. Mais Chaverra d'un mauvais ami. Un mauvais ami, malheureusement, parfois on a des amis qui sont des amis d'enfance ou des amis comme ça de rencontre, et qui ont ou une mauvaise influence ou une mauvaise parole, ou. Et c'est Des gens, des fois, des gens qui disent des choses pas belles, des choses grossières, etc. Ça, c'est un chaverra. Yetzerra, sauve-moi du yetzerra. Donc, toutes les choses mauvaises. Sauve-moi du mauvais penchant. Est-ce qu'on peut demander à Hachem de nous sauver du mauvais penchant? On l'a dit déjà plusieurs fois. Bien que ce soit notre rôle de le faire, c'est le rôle de notre vie, de lutter contre l'etzerra, mais on peut demander à Hachem un coup de main. D'accord? C'est-à-dire que on veut aller dans ce sens-là, alors aide-moi. D'accord? Des fois, j'ai pas assez de force dans tel ou tel domaine, alors aide-moi à traverser ça. Donc, on demande à Hachem de nous sauver du yetzerra. Mishachenra, d'un mauvais voisin. Ça, tout le monde a expérimenté, est-ce que c'est un mauvais voisin? D'accord? Mais voisin, c'est terrible. D'accord? Il faut une tfila spéciale pour avoir des bons voisins. D'accord? Moi, j'ai M. Gabé là, au deuxième, au quatrième. Donc, ça, c'est un bon voisin. D'accord? Des gens gentils avec qui ne font pas des histoires de voisinage. Shachenra, dans la tradition, c'est vraiment que le voisinage, c'est quelque chose de très important. On doit choisir les voisins. Parce que leur manière de vivre va influer sur nous. Quand tu as un voisin, il va à la tfila. Quand tu as un voisin qui fait les mitzvot, etc., tu es poussé à. Mais si tu en as un qui ne fait rien du tout, tu vas dire, tu vas chez toi. Ou mi Satan à Mashrit, sauve-moi également du Satan, d'accord, qui est Satan à Mashrit. Alors ça, c'est un peu différent du Yetzara. Satan à Mashrit, c'est le Satan destructeur. Et la Gemara, elle dit que parfois, quand il y a un vent de punition, que ce soit une épidémie, ou que ce soit une guerre, ou que ce soit quelque chose, eh bien le Satan, il est capable d'en profiter et de prendre des gens qui normalement n'auraient pas dû être pris seuls. Mais dans la mesure, par exemple, si c'est une épidémie, la Gemara dit qu'il faut partir. Pourquoi? Parce que au moment où le Satan a le droit d'être actif, il peut être actif même sur des fautes mineures. Donc c'est pour ça que ça s'appelle que Rabbi demandait d'être sauvé du Satan à Mashrit. Midin caché, sauve-moi d'un jugement dur. Ou mi baal din caché et d'un plaignant dur. D'accord? Hier soir, quelqu'un m'a raconté une histoire qui s'est passée avec Baba Salé. D'accord? Vous avez entendu parler de Rav Mordechai Eliyahu? Rav Mordechai Eliyahu, c'est grand rabbin d'Israël pendant de nombreuses années, un très grand sadique. Ça vous dit rien, Rav Mordechai Eliyahu? Rav Badi Yosef, vous connaissez. Rav Mordechai Eliyahu, il était. Après lui, il était Rav Mordechai Eliyahu, il était grand rabbin d'Israël, un grand kabbaliste, un homme très grand. Et c'était en 1950, à l'époque où Baba Salé commençait à être un peu connu, et Rav Mordechai Eliyahu ne le connaissait pas. Et une fois, Baba Salé, il a fait la Hiloula de son grand-père, Rabbi Yaakov Versera. Et il y avait le Rav Mordechai Eliyahu, donc grand rabbin d'Israël. Non, il n'était pas grand rabbin, il était grand rabbin de je ne sais pas quelle ville, puisqu'il n'était pas encore rabbin. Et Baba Salé, il l'a envoyé chercher, il a dit à son chamash, va me chercher Rav Mordechai Eliyahu. Tu dis que je l'invite à la Hiloula. Quand le chamash est arrivé, il dit, moi je ne fais pas la Hiloula, moi je suis Dayan, je suis un juge rabbinique. Je ne fais pas aller loulotte parce que je vais aller boire de l'arak et chanter et danser. Moi, je suis un Dayan. Ah, il est revenu, il a dit, il ne veut pas venir. Il dit, dis-lui qu'il vient tout de suite. Il retourne, il dit, Baba Salé, il a dit que tu viennes. Il a dit, tu dis à Baba Salé, je ne sais pas qui est Baba Salé, c'est peut-être un grand arabe, mais moi, je suis Dayan, je dois faire des jugements. Je ne suis pas fait pour des iloulottes. Il retourne, Baba Salé, il dit, tu dis que je lui ai demandé de venir ou ça va être très grave. Bon, il a dit, écoute, je peux faire autrement. Il est arrivé et Baba Salé a dit, viens t'asseoir à côté de moi. Et bon, tous ceux qui connaissent Baba Salé de près ou de loin commencent à lui servir l'arak, encore de l'arak, amène les trucs, amène la viande, il y a les chansons, il y a les danses. Et la soirée, elle passe et l'autre, le rabbin, le pauvre, il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là dans ce truc-là? Les iloulottes, c'est tout ce que j'ai à faire moi dans ce niveau-là. Et Baba Salé dit, allez, il tape sur les poids, il dit, reste là. Ça fait une heure, deux heures passent. Au bout de deux heures, la police rentre. Ils arrivent, ils disent, est-ce que le rabbin Eliyahu, Mordechai Eliyahu, il est là? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, ben, je suis été invité par Baba Salé. Il dit, ben, vous savez que vous avez la vie sauve. Il dit, quoi? Il dit, il y a un mois, vous avez fait un jugement, vous avez condamné un plaignant, qui était un fou furieux. Il a pris ce soir une batte, un grand bâton, et il a décidé de démolir les trois dayanim du Beit Din. Il a dit, il y en a un qui est déjà à l'hôpital, le deuxième, il s'est sauvé, il cherchait le troisième, il vous cherchait à vous, qui était le président du tribunal, pour vous casser la tête. Et il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, ben, c'est Baba Salé qui m'a amené. Alors depuis ce jour-là, il vénérait Baba Salé, et Baba Salé, il rigolait, parce que Baba Salé, il avait roi HaKodesh, Baba Salé, plein d'histoires sur Baba Salé, qu'il voyait des choses. Et, Et donc, depuis ce jour-là, Rav Mordechai Eliyahu est devenu un disciple fervent de Baba Salé. Ça, c'est l'histoire. Et donc, c'est ça qui dit le Rabbi. Il dit, sauve-moi mi baal din caché d'un plaignant dur. Parce qu'il était un Dayan et qu'il y avait des gens qui étaient virulents contre le Dayan. Ben Sheo Ben Berit, que ce soit un plaignant juif, ou Ben Sheno Ben Berit, que ce soit un plaignant qui n'est pas juif. Ok ? Exactement, exactement. C'est ce qu'on dit tous les matins. Dans le Birkot HaShachar, on le dit. Donc, vous voyez que cette prière de Rabbi, elle a été intégrée pendant Birkot HaShachar, Chazak. Et la maladie, un falgav de kaimek tsute allait de Rabbi. Bien que, il y avait des policiers autour de Rabbi. Malgré tout, ils demandaient la protection parce qu'ils savaient qu'il avait un rôle difficile et demandaient une protection à Hachem de les protéger de tout ça. Oui. J'ai oublié quelque chose de très important. Quand il a dit, sauve-moi dans la deuxième ligne, mais azépanim, azoutpanim, sauve-moi d'un homme effronté, ou mais azoutpanim et de l'effronterie. On a dit que l'homme effronté, c'est celui qui veut l'attaquer, et l'effronterie, c'est ceux à qui on pourrait répondre. C'est-à-dire, si quelqu'un vient t'attaquer, il faut avoir la présence d'esprit de se retenir. Et ça, il faut prier pour ça. D'accord ? On doit prier à l'avance pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est-à-dire, un homme, il doit. Comment toujours on dit quand il dit l'OMS, la définition de l'OMS, la santé c'est le silence du corps, oui. Mais tant qu'il y a le silence du corps, on fait jamais la prière de la bonne santé. On attend d'être fatigué pour la prière. En fait, on doit remercier Hachem de nous garder en bonne santé avant de tomber malade. La même chose. Oui, on est tranquille, on a que des copains ici, personne ne va nous agresser, on est copains. Mais on ne sait jamais. Imagine, il y a un qui prend quelque chose, qui te lance une pique, il est dur avec toi pour X ou Y raison. Il faut s'être préparé avant pour pouvoir pas répondre brutalement à quelqu'un qui t'agresse. D'accord ? Ça, c'est une grande mahala. Ne pas répondre brutalement à quelqu'un qui vous agresse verbalement, c'est une grande madriga. Il a dit, le rabbi de Belz, Rav Aaron Bin Belz, il a dit que si quelqu'un est agressé verbalement et qu'il ne répond pas, ça équivaut à 84 jeunes. Pédalet à Agnot. Et son fils, il a dit qu'à notre époque, où on est dans une génération qui est tellement agressive et tellement violente, il dit, moi je pense que c'est 4 fois 84 jeunes de ne pas répondre. Alors souvent, je lui rends sur la figure. D'accord ? Donc, savoir se taire quand on est agressé, c'est un grand niveau. D'accord ? Il faut savoir qu'un homme agressé qui ne répond pas, c'est un grand mérite pour lui. Voilà, c'est ça ce qu'il faut se rappeler.
Alors, œil pour œil, dent pour dent, c'est une mauvaise interprétation.
Ah oui, de toute manière... Oui. Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'aspect financier, uniquement. Ça n'existe. Le principe de œil pour œil, ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire que par exemple, il m'a crevé, je le crève, ça de toute manière, ça n'existe pas dans la Torah. Puisque la Gemara, elle explique, elle dit ça. Elle dit que de toute manière, c'est injuste de faire ça. Pourquoi ? Parce que imagine quelqu'un, il crève un borgne, qui crève les deux yeux d'un homme normal. Comment tu vas appliquer d'œil pour œil, dent pour dent ? C'est injuste. Lui, c'est un pauvre type, d'accord. Mais quand lui, à l'autre, il lui a crevé qu'un œil, donc il continue à voir. Si je le fais œil pour œil, dent pour dent, je vais le rendre aveugle. Donc c'est pas juste. Donc il y a. Alors tu me diras, bon, dans ces cas-là, mais à partir du moment où tu mets des limites à la loi du talion, qui de toute manière est injuste par essence, tu peux jamais faire la même chose. D'accord ? La stricte égalité des choses, ou des chances, ou de la punition, est impossible. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est la punition financière. Voilà pourquoi Aïn Tachataïn et Shen Tachatchen, œil pour œil, dent pour dent, c'est pas du tout physique, c'est financier.
On demande une réparation financière.
C'est tout. D'accord ? Ça c'est clair. Dans le judaïsme, il n'y a pas le taillon, c'est la réparation financière. Et quand on dit œil pour œil, dent pour dent, c'est bien sûr, bien évidemment, pas dans la répartie, dans le fait que tu rendes. Un homme, il doit avoir que la Gemara dit Anélavim et Namolvim. Ceux qui sont humiliés, qui ont la force de ne pas humilier l'autre, ils ont la même puissance que le soleil dans toute sa splendeur. Ils brillent comme un soleil. Donc il y a comme ça une incitation à ne pas répondre aux agressions, en tout cas sauf s'il y a une vie en danger, etc. Ben, on ne parle pas de Hamas, on ne parle pas de ça, mais, qui leur donne des crabouilles. Mais dans...
Il y a des exceptions.
Ouais, ouais, non, ça c'est sûr.
On dit que celui qui est humilié en public et qui ne répond pas, on lui efface toutes ses fautes.
Exactement. Il est capable de donner une bracha. Si quelqu'un...
Oui, il s'entraîner. Et puis, s'entraider.
Si vous, il y a plein d'histoires comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui reçoit une humiliation et qui ne répond pas, il faut aller lui demander une bénédiction. Il est capable de bénir, il a la force de bénir. Quelqu'un qui a cette puissance. Il y a des gens comme ça, qui sont, ils deviennent blêmes, mais ils ne bronchent pas. S'il a cette force, il faut vite aller lui demander une bracha, parce que c'est un homme qui a la capacité de bénir. Ok ? Mais il faut se préparer à l'avance, à toutes les surprises de la vie. Ok ? On est bon ?
On va tous devenir des babas salés.
On pourrait ? Alors, paragraphe suivant. Rav Safra. La Gemara dit, Rav Safra, Batar Demsayem Tsulte, après qu'il ait terminé la prière, aussi, Amarari, voilà ce qu'il disait. Qu'elle soit ta, que la volonté soit devant toi, Hachem. Shetasim shalom bepamalia shelmala. Que tu mettes la paix dans l'armée d'en haut. En général, pamalia, on traduit par armée. Oui. Mais en fait, j'ai vu qu'il y a une autre traduction, beaucoup plus sympathique. Pamalia, la pamalia. Ça vous dit quelque chose, ce mot-là? Au lieu de armée. À quoi il ressemble, ce mot-là? C'est un mot araméen ou un mot grec ou un mot? Hein? Pas Pamela, pas ça, toi. Hein? Voilà! Pamalia, c'est la famille, familia. D'accord? Au lieu de traduire par armée, d'accord? Donc on dit souvent Pamalia shel mala, Pamalia shel mata. L'armée d'en haut, l'armée d'en bas, c'est la famille. Alors la famille, le groupe. Alors, donc on demande à Hachem de mettre la paix dans la famille d'en haut, c'est-à-dire dans les anges. Mais Pamalia shel mata. Et dans la famille d'en bas, c'est les chachamim. Ça veut dire deux choses. On sait que les querelles dans ce monde sont liées à des querelles entre les anges d'en haut. C'est-à-dire chaque nation, elle a un ange qui la représente dans le ciel. D'accord ? Comme Yaakov qui s'est battu avec l'ange de Esav. Vous vous rappelez ? Pourquoi ? Parce que l'ange de Esav, c'est l'ange qui représente dans le ciel cette nation, la nation de Esav. Même chose, il y a la nation italienne, la nation anglaise, la nation, etc. Chacun, il a son malar. Et donc, on demande à Rav Safra, il demandait à Hachem de mettre de l'ordre dans les anges en haut. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conséquences de leur querelle, parce que c'est en bas qu'après, il y a la guerre. Entre la Russie et l'Ukraine, c'est les anges d'en haut. Ou bien pas Maria Shelmata, mais également de mettre la concorde dans la famille d'en bas, c'est entre les Chachamim. Que les rachamim entre eux s'entendent, qu'il n'y ait pas de dispute entre eux, les rabbins. Oui ? Ouais. Comme la Gemara a dit. Tu vois, il y a des phrases célèbres, je vous dis, parce que c'est tellement. La Gemara a toujours des images extraordinaires. Une fois, il y avait deux rabbins qui se chipotaient. Alors, un, il a dit à l'autre : mais t'as pas honte de me faire des histoires ? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens ? Les gens, ils vont dire que deux prostituées, elles cèdent l'une l'autre à travailler. Viens, je t'arrange, viens, je te coiffe, viens, je te maquille. Et deux rabbins, ils ne sont pas capables de s'entendre. Comme ça, dit la Gemara. Le rôle de deux chachamim, c'est d'être toujours béchalom. Ou ben talmidim, aoskim betoratecha. Et on demande, et toujours Rav Safra, il dit, mets la paix entre les élèves, aoskim betora. Pas seulement entre les chachamim, mais même entre les élèves qui étudient la Torah. Ben oskim lishma, ben oskim shelishma. Que ce soit des gens qui étudie les Shem Shamaim, ou que ce soit ceux qui étudient pas les Shem Shamaim. Alors je m'explique. Il y a plein de raisons pour lesquelles chacun d'entre nous est là ce soir. On est tous des élèves qui étudient ensemble. D'accord ? Et comme ici, comme dans n'importe quelle synagogue du monde, comme dans n'importe quelle yeshiva du monde, chacun il a une motivation. Il y a des gens qui étudient les Shem Shamaim, il y en a qui étudient pour l'argent, il y en a qui étudient pour la gloire, il y en a qui étudient parce que leur père... Il y a mille raisons. D'accord ? Alors c'est vrai que, vous allez me dire, mais nous, c'est pas notre... Mais il y en a, des fois, on étudie par culture, parce que ça nous intéresse, etc. Alors, vous allez me dire, mais c'est déjà bien, ça c'est sûr, d'accord ? C'est toujours bien d'étudier, comme la Gemara a dit, même si c'est pas les Shem Shamaim, d'accord ? Même si quelqu'un, il étudie ou il vient à la prière pour de l'argent, des fois, les jeunes, on les encourage, on leur donne un peu d'argent, un petit, va à l'Yeshiva, on va étudier, je te donne 10 euros, quel que soit l'âge des euros, même si c'est pour faire plaisir à sa femme ou... Chérie, va au Bethelimos, va étudier, c'est bien. C'est toujours bien. Mais malgré tout, il y a un moment où on doit dépasser ça, où on doit faire l'ishma. C'est quoi l'ishma pour Hachem? Parce qu'on a une obligation. Un homme, il a l'obligation d'étudier, comme dit le Rambam, un homme, il a l'obligation d'étudier qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade, qu'il soit pauvre, qu'il soit seul, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Comme ça, il dit le Rambam ici, toutes les catégories de personnes, il dit dans tous les cas, un homme, il a l'obligation, c'est une obligation d'étudier la Torah. Alors, Baruch HaShem, c'est aussi un plaisir, heureusement. Donc, c'est aussi un plaisir d'étudier, etc. Mais il y a des fois où on n'a pas le moral, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Eh bien, on a quand même l'obligation d'étudier tous les jours. Voilà pourquoi c'est important de se fixer des objectifs. Par exemple, quelqu'un qui dit, moi, je fais une Mishnah par jour. Un autre, il fait le Chok l'Israël. Un autre, il fait le Daf. Un autre, il fait ci, la Paracha de la semaine, etc. Et se faire des objectifs comme ça, ça permet, quand on est ou fatigué ou qu'on n'a pas le moral, de continuer à étudier. Pourquoi ? Parce que étudier tous les jours, c'est l'obligation d'un juif. D'accord ? Pourquoi ? C'est comme ça. Parce que Dieu m'a demandé d'étudier tous les jours. D'accord ? Et de maintenir le cap, de jamais lâcher la corde de l'étude. Où qu'on soit, même sur un lit d'hôpital, ceux qui ont se rappelé quand le Rav Reikin était malade, sur le lit d'hôpital, il étudiait, il avait son livre, il étudiait. Il était en chirurgie vasculaire avec le professeur Guidi Shelly. Le fameux Guidi Shelly, il l'appelait mon petit mouton. Parce qu'en hébreu, Guidi c'est un mouton, et Shelly, le mien. Alors il dit, Guidi Shelly il a dit mon petit mouton, comme ça il rigolait toujours, vous êtes mon petit mouton, vous m'avez sauvé. Il l'avait opéré, mais il était dans son lit d'hôpital, opéré avec les trucs. Il avait son livre d'études. Bon, c'était sa vie aussi, hein. Il vivait pour l'étude de la Torah, la Chaykin. Donc, Ben Oskim Lishma, et il dit, et la prière de Rav Safra, c'était que Vechol Oskim Shelo Lishma, et tous ceux qui étudient pas pour Hachem, mais qui étudient pour des raisons annexes, qui sont aussi bien, Yiratzon Milefanecha, qu'elle soit ta volonté, Shioskim Lishma, qu'ils aient un réveil et qu'ils comprennent qu'on étudie parce qu'Hachem nous a demandé et parce que c'est une mitzvah. Que la plus grande mitzvah de toute la Torah, c'est étudier. L'étude, c'est la mitzvah qui est la valeur ultime. Bien que c'est une mitzvah qui s'efface devant toutes les autres. Ça veut dire que c'est bien joli d'étudier, mais c'est pas au détriment des mitzvot. Ça veut dire que il y a le prier, il y a la vie de famille, il y a le chesed, il y a la tzedaka, tout ça, ça doit se faire, c'est des obligations. Et je veux rien savoir avec l'étude. Mais tout le temps, comme il dit le Gaon, tout le temps que tu as de livres, tu le remplis de Torah. D'accord? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as à faire maintenant? La famille, ta femme besoin de rien, ta femme besoin de rien, tes enfants besoin de rien, la synagogue, rien, non, il y a rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre un livre, tu prends un sefer et tu étudies. C'est ça l'obligation d'un juif. Sauf si tu as besoin de te distraire pour aller faire du squat ou lire quelque chose. Il n'y a pas de problème. Samer Zain, on est bon? Rabbi Alexandrie. Alors ça, c'est très beau ça. D'accord? On n'aura jamais vu un juif qui va s'appeler Macron. L'Avdil, oui. Pourtant, on trouve un juif qui s'appelle un rabbin en plus qui s'appelle Alexandrie. Alexandrie, c'est du nom du roi Alexandre. D'accord? Alexandre, le fameux Alexandre de Macédoine, qui a été un bon roi pour les juifs, et qui est l'ami des Chachamim. D'accord? Il était tellement ami avec le peuple juif, qu'il y a des gens qui ont donné le nom du roi Alexandre à leurs enfants. Et même maintenant, jusqu'à maintenant, il y a des Ashkenazim qui s'appellent Alexandre. Alors bon, ces Ashkenazim, je ne sais pas si c'est avec le roi Alexandre ou Alexandre de Russie, je ne sais pas. Probablement, c'est jusqu'à le grand roi Alexandre, il était connu, il était ami des juifs. Plein de rois qui étaient comme ça. Donc, ce fameux rabbi Alexandrie, Batar Tzlouté, ah oui, il est très belle, c'est ça. Après la prière, Amarachi disait ceci, Iratzem Evanecha Hashem Lokenu, regardez, chez Ta'amidenu, que tu nous mettes, Bekeren Ora, tout le monde est bon? Greg, t'es bon? Dans un rayon de lumière, Ve'al Ta'amidenu, Bekeren Shachachecha. Et ne nous met pas dans un rayon d'obscurité. Alors, rayon d'obscurité, c'est un drôle de rayon. Hein. Le rayon noir. Il y a le rayon noir et le rayon blanc. Alors, il y a une très belle histoire avec le Baal Shem Tov. Vous connaissez le Baal Shem Tov, fondateur de la Hassidut. Une fois, il était avec ses élèves au Beit HaMidrash. Et passe devant le Beit HaMidrash un juif qui s'appelle Haikel. À l'époque, il y avait des juifs porteurs d'eau. Il n'y avait souvent pas l'eau à domicile. Il n'y a pas l'eau courante. Et donc, il y avait des juifs qui étaient porteurs d'eau, porteurs de scie. Et Haikel, c'était le porteur d'eau de la ville. Et donc, le Baal Shem Tov, il le voit par la fenêtre, il appelle « Haikel, comment ça va ?»« Catastrophe, mes gens ne me portent pas, et avec ce que je gagne, je porte toute la journée, des seaux d'eau, et pour gagner 3 sous, Rabbi, vous ne pouvez pas faire des prières pour moi, j'en ai marre de cette vie depuis que je suis petit, je ne sais pas faire autre chose, c'est tout ce que j'ai... » Alors, le Baal Shem Tov, il dit « Je te bénis, que tu la bracha, patati. » Lendemain, à la même heure, 11h, Haikel, il repasse devant le Beit HaMidrash, et le Baal Shem Tov, il dit « Attendez, il appelle... » Raïkel dit, Raïkel, comment ça va? Baruch HaShem, regardez comment, vieux comme je suis, je porte des seaux d'eau, et avec le peu que j'ai de quoi vivre, et j'ai encore mes jambes, j'ai encore ma tête, Baruch HaShem. Alors, le Baruch HaShem, il dit à ses élèves, quelle différence il y a aujourd'hui? C'est pas que je l'ai béni, c'est rien, moi j'ai béni pour qu'il soit riche. Quelle différence? Il dit que HaShem, il a la capacité de mettre quelqu'un sous un rayon de lumière ou sous un rayon d'obscurité. Ça dépend du mérite de la personne. Qu'il y a des fois, tu peux être pauvre, tu peux être malade, mais la vie est belle. Ça va, Baruch HaShem, le soleil se lève, regarde, c'est bien. Et ça va aller. Et puis il y a des jours où c'est la noirceur. Donc ça, il dit, avoir le moral, ça se demande. D'accord? Souvent, on est là comme ça, on est là. Aujourd'hui, c'est pas bon, je suis pas bien, patati, on ne sait pas pourquoi, des fois on sait pourquoi. Mais en tout cas, Rabbi Alexandrie, lui, il faisait une prière tous les matins. Il disait, Hachem, s'il te plaît, éclaire-moi d'un rayon lumineux. Que quand je me lève le matin, c'est beau. Ah, la neige, comme c'est beau. Et la pluie, c'est ça qui fait... Voilà. En fait, c'est un problème de regard sur les choses. D'accord? Alors, c'est vrai que le regard, c'est aussi une éducation. Mais la pluie, si tu as côtoyé des agriculteurs, la pluie, c'est la bracha. Bien sûr. Il n'y a rien de plus beau que la pluie. C'est quand il voit la pluie, comme toi quand tu vois le soleil. Un agriculteur, moi je me rappelle ce qu'il a connu, M. Ghanem, chaque fois qu'il y avait la pluie, il sentait, il disait, bon, Hachem, cette pluie, bon, Hachem. Parce qu'il vivait en Tunisie, il savait que la pluie, c'était nécessaire pour les récoltes. Et la pluie, c'est beau. Moi, j'adore la pluie. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit, Rabbi Alexandrie. Et donc, il faut faire une tfila. On fait une tfila Hachem, d'accord? Au lieu de prendre des antidépresseurs, on dit, j'ai ta amidé dans les Karanora, que tu nous mettes dans un rayon de lumière, dans un rayon de que nous positive notre vie. Et s'il te plaît, ne nous mets pas dans un rayon obscur. Et que notre cœur ne soit pas triste. D'accord? Même ça, on peut demander. On peut être mis de palel pour ça. On peut être mis de palel pour tout. En vérité, nous, on a honte de demander. On dit, mais c'est mon problème, c'est mon rôle, c'est mes oignons. Qu'est-ce qu'Hachem il va faire là-dedans? Non, Hachem, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Va lire Chéchon et Néou, et que nos yeux ne s'obscurcissent pas. Et s'obscurcissent pas, quand les yeux s'obscurcissent, c'est quand on a des mauvaises nouvelles, etc. Il faut être mis de palel pour ça, d'accord? Sinon, on est catastrophe. Regarde ce qui s'est passé hier, qui c'est qui n'a pas pleuré? 21 soldats, et c'est ça, on a les yeux qui sont pleins de larmes. Et ça, il faut être mis de palel. Il y en a qui disent que, que cette prière de Rabbi Alexandrie qui est très jolie, qui demande le bon moral, Rav Amnouna Matzlela. En vérité, c'est Rav Amnouna qui la faisait peut-être aussi. Mais Rabbi Alexandrie, et le fameux Rabbi Alexandrie, Batar Tzoudé après sa prière, Amari, voilà ce qu'il disait. Ribon Kalaolamim, maître du monde, Galou Veyadoua Lefanecha, c'est clair et dévoilé, c'est dévoilé et clair devant toi, Shirtsonenu Lasot Retsonecha, que notre volonté, c'est de faire ta volonté. Ça veut dire en vérité, moi, Hachem, tu sais que je suis un bon juif, et que je veux être un bon juif, et que tout ce que je veux, c'est faire ta volonté. Mais qui dérange? D'accord? Qui nous empêche d'être un bon juif? Si on vous demandait. Qui nous empêche d'être un bon juif? De faire les choses bien, en général.
Moi.
Hein?
Moi.
Mais d'accord. Mais toi, tu dis, mais moi, je suis bien. Alors, qui t'empêche d'être top? Pourquoi on n'est pas toujours au top? Il y a le Yetzerara, ce qu'on dit, il y a le Yetzerara. D'accord, le Yetzerara, c'est-à-dire que, tu as raison, c'est le moi. Mais il y a une lutte entre soi-même, entre ses bons penchants, ses mauvais penchants, ses désirs, etc. On est manipulé, on est baladé par ça. Et regardez ce qu'il dit. Oumi Me'akev, c'est or Sheba Issa. C'est la levure de la pâte. Au lieu de dire tranquillement le Yetzerara, il dit c'est la levure de la pâte. Hein? Alors. C'est vrai qu'en général, on dit c'est la levure de la pâte. Mais c'est pas... Hein? Pessah, etc. On parle de pain levé, etc. Mais en vérité, le commentateur dit, c'est quoi la levure de la pâte? Pour faire du pain, il y a besoin ou pas de la levure? Du levain? Il y a besoin, tu peux pas faire du pain. La pâte, elle a besoin de levain. D'accord? Seulement, un, il faut pas trop en mettre. Et deux, il faut travailler la pâte. Et il faut pas la laisser trop gonfler. Il dit en vérité, Hachem, tu sais qu'est-ce que... Donc, c'est une manière délicate d'appeler le Yetzera, de dire à Hachem, tu sais quoi? Le Yetzera, on en a besoin. D'accord? Si on n'a pas le Yetzera, on n'a pas la vitalité. Le Yetzera, c'est lui qui nous donne un peu, qui nous fait bouger, qui nous motive, qui nous donne des passions. Comme la Gemara dit une fois, ils ont lutté contre le Yetzera. Ils ont demandé à Chachamim de supprimer le Yetzera. Oui, le lendemain matin, même les poules, elles ne faisaient plus d'œufs. Comme ça, dit la Gemara. Même les poules, elles ne voulaient plus faire d'œufs. Donc la Gemara, tu vois bien qu'on a besoin d'un minimum de yetzer pour pouvoir vivre, pour pouvoir... J'ai envie, avoir des envies, désirer, je veux manger, je veux vivre, je veux... Donc ça, ce désir-là, c'est le Seor, c'est Baïssa. Mais le problème, c'est que c'est la quantité. Donc on ne doit pas prier pour éliminer les yetzer, mais on doit prier... pour le limiter, pour qu'il soit en utilisation la meilleure. Et la deuxième chose qui nous empêche d'être des bons juifs, Veshirboud Malchouyot. Le poids des exils, le poids des nations. Ça veut dire que s'il n'y avait pas les soucis du gouvernement, les soucis des impôts, les persécutions en tout genre, eh bien, un juif, il serait meilleur, il pourrait. Donc, les deux choses, c'est une lutte intérieure, qui est la lutte avec le Yetzer Hara, ce qu'il a appelé Seor Shebaïssa, et la deuxième, c'est Shiabud Malchouyot, le poids, le fardeau des nations, qui nous empêche de nous exprimer correctement. Iratson, qu'elle soit ta volonté, mais fanera jamais l'okenu, shetachniem milefanenu meacharenu, que tu les fasses plier, devant nous et derrière nous. Ça veut dire quoi? Que de devant nous, on n'est plus ces obstacles ou du Yetzer Hara des nations, ou Maharinu est derrière nous. Que veut dire derrière nous? Est-ce qu'on a le Yetzer Hara derrière nous? Est-ce que ça existe d'avoir un Yetzer Hara a posteriori? En général, le Yetzer Hara, il est devant toi. Pourquoi on demande d'enlever le Yetzer Hara après? C'est quoi le Yetzer Hara de derrière?
Ah, c'est celui qui va se dire tu as fait une faute, mais c'est pas grave, c'est pas important.
Pas mal, pas mal. Alors, c'est joli ça, mais parce qu'en réalité...
De transmettre aux autres aussi, non?
Derrière, de transmettre derrière, le mal.
De transmettre le Yetzer Hara à ceux qui nous entourent.
Ah, qu'on demande une prière de ne pas le transmettre.
Non, tu me dis, c'est quoi le Yetzer Hara de derrière?
Oui.
Celui qu'on laisse derrière nous, la trace.
Ah, pas mal, pas mal. Oui, derrière nous, oui. Ce qu'on laisse comme trace derrière nous, c'est joli, oui, c'est bien.
Vous
donc
regretter d'avoir fait du bien.
Ah, les tirades après. Regarde avoir du bien. Très bien. Bon, c'est toute déjà l'explication. Il y en a aussi une autre qui est très jolie et d'ailleurs qui va combler ce que tu dis toi. C'est que parfois, les tirades est tellement méchant qu'il te... Après qu'on ait fait une faute, tu dis, t'as vu, t'es perdu. T'as vu ce que t'as fait? T'as vu ce que t'as fait? Tu te croyais pour un bon juif, tu pensais danser, voilà, t'as craqué, t'as rien fichu. Allez, laisse tomber. C'est-à-dire qu'il est capable de te décupler la gravité de la peau juste pour te...
Enfin,
alors bien sûr, le Yetzer Hara, c'est nous, mais c'est très bien dit, le Yetzer Hara, c'est nous. Mais en nous, Hachem, il nous a créés comme ça. Et notre rôle, c'est de lutter contre ça. D'accord? Donc en réalité, notre rôle à nous, un, c'est de pas faire d'erreur, de faire du bien sans faire d'erreur. Et deux, c'est une fois que ce qu'on a fait, c'est fini. On ferme la porte derrière nous. J'ai fait, c'est pas grave. Ou j'ai pas fait, j'ai raté les tefillines. Eh ben c'est bon, demain je les mettrai. C'est pas, oh là là, quelle catastrophe, je les ai toujours mis et aujourd'hui j'ai raté. Eh, c'est bon. Hein. Alors, bien évidemment, après il y a un moment où on doit se repentir, etc. Mais c'est pas le moment. Une fois par an, à Kippour, on remet tout. Mais en général, il faut avancer sans regarder derrière soi, sinon la culpabilité nous empêche d'avancer. En règle générale. D'accord? Donc ça, c'est lié de ça. Après, ce que vous avez dit, ce que tu as dit Greg, ce que tu as dit aussi, c'est aussi bien. C'est aussi des formes de Yetzera. Il y a beaucoup de formes de Yetzera derrière nous. C'est qu'on a l'orgueil. D'accord? C'est aussi une forme de Yetzera par rapport à on a bien fait. J'ai fait, et voilà, moi je fais ça, et j'étudie tous les jours, j'étais à l'hôpital, et vous voyez, mes amis, j'étais à l'hôpital voir des malades, voilà, patati, ou j'ai donné la zaka, ou j'ai fait ci, ou ça. D'accord? Sauf si ça peut aider les autres à faire. Mais sinon, le bien qu'on fait, on n'a pas besoin de le dire aux autres. Ok. Sauf si ça peut donner des bonnes idées aux autres. Et enfin, il dit, Venashuba, la sorte rougeret son echa belevav shalem, et qu'on puisse revenir et faire ta volonté avec un cœur entier. On y va. C'est bon que je ne dépasse pas les horaires.
Moins 25.
Enfin, encore un tout petit. Parce que sinon, on va... Ouais, d'accord, un tout petit. Quoi?
Il y a deux façons de vivre la Avera.
Ouais.
Il y en a qui vivent la Avera avec sans remords, avec presque avec un plaisir, et d'autres qui, parce qu'ils s'y sont habitués, hein, ça n'a aucune incidence sur eux, et d'autres qui au contraire, se culpabilisent, enfin, se sont mal, quoi, après la Avera. Et tu ne peux pas, avec ce passe-tout-là, prendre
Attends. Ce que je voulais dire, c'est que et s'en fiche, et se culpabiliser, d'accord, les deux sont négatifs. Si la Vera s'en fiche, bien sûr qu'on est un pauvre type. Sinon, on ne bougera jamais. Si quelqu'un il s'en fiche de la Vera, ben il va continuer. Mais la culpabilité qu'entraîne la Vera, parfois, elle est nocive. Parce qu'elle t'empêche d'avancer, elle t'empêche d'étudier, elle t'empêche de faire du bien. C'est pour cette raison que la culpabilité, si elle t'aide à te corriger, tant mieux. Mais la plupart du temps, elle t'enfonce. Elle te dit, t'as vu ce que t'as fait? Tu vas aller au chiour, et tu vas étudier, et tu vas faire la tefila. Allez, fais la mida en deux secondes, et puis c'est bon, ça, c'est déjà bien. D'accord? Non, c'est pour cette raison, une des grandes phrases que la Gemara a dit, c'est que la Torah ne prend pas l'impureté. C'est marqué, alors que les varais qui esh, mes paroles elles sont comme du feu. La Gemara dit, c'est quoi mes paroles sont comme du feu? Le feu, il peut pas prendre l'impureté. D'abord, il brûle tout, et puis à part ça, un feu, ça prend pas l'impureté, ça n'a pas de matière. La Gemara a dit, la Torah ne prend pas l'impureté. Ça veut dire que quoi qu'un homme il ait pu faire, quoi qu'un homme il ait pu, ce que vous pouvez imaginer de pire, s'il se met devant l'étude de la Torah qu'il étudie, il est propre. Il s'appelle propre, il peut étudier la Torah, quoi qu'il ait fait avant, quoi qu'il ait fait après, la Torah n'est pas susceptible d'attraper l'impureté. Or ça, c'est une grande règle de la vie et c'est très important. C'est ça qui te permet d'avancer. D'accord? Parce que des fois, on n'a pas tout arrangé, on n'a pas encore bien arrangé, on est en train d'arranger. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire devant un texte? Qu'est-ce que je vais faire la prière? Que je vais à la synagogue avec tout ce que je traîne derrière moi? Occupe-toi de rien. Laisse tout derrière. Tu laisses tout à la porte, et de la porte de la maison d'études. C'est dans ce sens-là que je voulais dire que la culpabilité, elle peut être nocive. Ça dépend des situations. Des fois, c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut être inconscient, mais la plupart du temps, la culpabilité, elle ne t'aide pas à positiver. Elle t'enfonce. D'accord? Allez. Non, et ça suffit. Non, parce qu'en vérité, le mort béré des Ravuna, il est très important parce que c'est celui qui va être choisi dans la liste des 10. C'est celui qu'on fait tous les jours. Ouais. Le Kainetzor Neshonimera, c'est mort béré des Ravuna qui l'a innové. Donc on va le laisser la semaine prochaine. On est bon?